Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Par les temps qui courent, tous les soirs, un ou une artiste pendant une heure. On est ravis ce soir de recevoir Paul B. Preciado.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Paul B. Preciado.
Mon corps trans est une maison vide. Je profite du potentiel politique de cette analogie. Mon corps trans est un appartement en location, sans aucun meuble, un lieu qui ne m'appartient pas, un espace sans nom. J'attends toujours le droit d'être nommée par l'État, j'attends et je crains la violence d'être nommée. Quand elle vient me voir, on ne peut presque rien faire d'autre que se regarder, rester debout à se tenir la main, nous allonger ou faire l'amour. La beauté de cette expérience singulière, que l'on pourrait appeler démeublement, me fait me demander pourquoi nous nous obligeons à meubler les maisons, pourquoi il est nécessaire de connaître notre genre, savoir quel sexe nous attire. IKEA est à l'art d'habiter ce que l'hétérosexualité normative est au corps désirant. Une table et une chaise forment un couple complémentaire qui n'admet pas de questionnement. Une armoire est un premier certificat de propriété privée. Une lampe à côté du lit, c'est un mariage de raison. Un sofa en face de la télévision est une pénétration vaginale. Le rideau pendu à la fenêtre est la censure anti-pornographique qui se dresse lorsque la nuit tombe. L'autre jour, alors que nous faisions l'amour dans cette maison vide, elle m'a appelée par mon nouveau nom et elle a dit « Le problème, c'est notre esprit. Nos esprits luttent, mais nos âmes et nos corps sont en parfaite harmonie. » Quelques minutes plus tard, alors que ma poitrine s'ouvrait pour respirer quelques atomes d'oxygène de plus et que mon cortex cérébral prenait la connaissance, la consistance du coton, j'ai senti que mon corps se dissolvait dans l'espace vide et que mon esprit, autoritaire et normatif, presque mort, abdiquait. Athènes, 8 octobre 2016. Paul B. Preciado. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Un appartement sur Uranus, c'est un extrait de ce texte-là que je viens de lire. Je dis ce texte-là parce que c'est une réunion de plusieurs chroniques que vous avez tenues pendant un temps donné dans le journal Libération. Mais c'est vraiment devenu un livre, à mon sens. C'est un livre qui est préfacé par Virginie Despentes, qui contient aussi un texte de vous. Un livre qui révèle une unité. Est-ce que au moment où vous propose ces chroniques-là dans Libération, vous étiez en mesure de vous imaginer qu'il pouvait en sortir une sorte d'expérience littéraire comme ça qui fait un?
En réalité, pas tellement. En fait, j'ai accepté ces chroniques parce que je me suis rendu compte en fait qu'on était dans un moment politique peut-être différent et que la critique philosophique, par exemple, que j'ai menée à l'université, au musée, et de l'autre côté, en fait, le militantisme, l'activisme trans ou queer que je faisais dans les milieux alternatifs, on va dire, n'était pas suffisant. Que tout d'un coup, en fait, il fallait prendre la parole autrement parce que voilà, il y avait des manifestations dans les rues et que tout d'un coup, il y avait effectivement cette parole extrêmement raciste, extrêmement homophobe, transphobe, qui était en train, en fait, de devenir une parole institutionnelle, une parole banale. Et du coup, je me suis dit, oui, effectivement, je vais faire quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, Libération m'a proposé de faire quelques chroniques comme ça, au tout début, en fait, 2-3 chroniques. Et après, ça coïncidait aussi au moment en fait où je suis parti en voyage. Il y a eu vraiment beaucoup de changements dans ma vie en fait, parmi lesquels effectivement aussi les désirs des transitions sexuelles ou de genre. Et du coup, les chroniques sont devenues vraiment une manière pour moi d'envoyer un message. Parfois, en fait, je me trouvais, c'est pas en Argentine, j'étais en Suède ou en Chine ou ailleurs. Et du coup, en fait, voilà, je me disais, mais enfin, où je suis, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et du coup, en fait, j'envoyais une chronique. Et c'était vraiment une manière aussi de garder les contacts, peut-être avec mes amis, avec les activistes à Paris ou en Europe ou ailleurs.
Quand vous dites finalement il y avait une autre parole qui s'imposait, autre que être curateur d'une exposition ou enseigner, parce que c'est vraiment une partie très importante hein, quand même de votre activité, c'est une parole et une écriture qui étaient dotées d'une autre responsabilité ?
Pas tellement d'une autre responsabilité, parce que pour moi la responsabilité est peut-être la même, mais peut-être le fait qu'il fallait parler autrement, trouver un langage peut-être différent. Et mais il faut dire aussi que ça faisait longtemps que j'étais quand même plus ou moins fatigué ou en tout cas critique en fait par rapport au langage académique. Il y avait aussi, enfin c'est quelque chose qui commençait déjà avec par exemple quand j'ai fait Testo Bianchi, je me souviens en fait
livre,
mon livre, ouais, un de mes livres précédents justement, qui était plutôt un protocole d'intoxication volontaire à la testostérone. Et à ce moment-là, je me souviens très bien en fait que mes éditeurs et même compris le trois lecteurs en fait qui avaient lu mon livre me disaient mais non, il faut couper les livres en deux, il faut d'un côté en fait mettre la philosophie, de l'autre côté en fait tes protocoles sur la testostérone ou des textes un peu plus autopornographiques par exemple en fait. Et donc j'ai beaucoup douté jusqu'à la fin, mais finalement je me suis dit non, mais les livres il est comme ça, on peut pas les couper en deux. C'était aussi une manière justement de critiquer peut-être en fait la dimension, je sais pas s'il faut l'appeler politiquement correct en fait, de langage académique, mais en tout cas le
quand
fait
vous dites le langage académique, c'est le langage du savoir par exemple, le langage de l'université,
tout à fait, le langage des disciplines universitaires en fait, qui devient très rapidement aussi un langage en réalité qui est très semblable au langage néolibéral, au langage commercial ou publicitaire. Et quelque part, en fait, justement, il y a tout un ensemble des conventions linguistiques qui se mettent en place. Et la question, c'est justement comment trouver, peut-être, comment inventer des paroles, des grammaires qui ne sont pas exactement ces paroles universitaires ou parfois aussi les langages de l'activisme, qui est aussi très spécifique, en fait.
C'est aussi pour ça qu'on vous invite dans cette émission où on a l'habitude, je le disais en introduction, de ne recevoir que des artistes, que des gens qui ont à voir avec la création. Et c'est vrai que quand on vous présente généralement, Paul B. Preciado, vous êtes plutôt du côté de la philosophie. Vous avez été reçu au chemin justement de la philosophie avec Adèle Van Redt. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de l'appartenance à une discipline. Et pourtant, ces textes, ils empruntent, malgré l'unité qu'ils forment, plein de formes différentes. Dans le petit extrait que je lisais, on sent qu'il y a autant une dimension humoristique, politique, que profondément intime. Et quand vous parlez, quand vous décrivez la manière dont vous faites l'amour avec cette femme, on pourrait être dans un texte ou bien autobiographique, ou bien autofictionnel, ou bien un roman. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une liberté acquise, revendiquée, ou que vous avez toujours eu, d'une certaine manière, cette circulation ?
Non, peut-être que je suis venu à ça petit à petit, en fait. Peut-être, justement, j'étais plutôt bon élève de la philosophie. Et j'étais vraiment, j'ai suivi un enseignement tout à fait classique, hein, vraiment avec les jésuites et compagnie. Donc c'était vraiment quelque chose de très classique. Après, je suis parti aux États-Unis et c'est là en fait effectivement que peut-être la philosophie elle perd ses limites habituelles et qu'elle côtoie plus les arts et la littérature. Et après, je pense que c'est effectivement en contact avec Derrida beaucoup que j'ai commencé en fait à penser à la philosophie comme un art de fiction. Et pour moi, effectivement, la tâche de la philosophie est l'invention d'un langage. En fait, c'est pas du tout, c'est pas une tâche descriptive de la réalité. Et ça ne m'intéresse pas du tout en fait d'écrire la réalité. Je laisse cette tâche aux sociologues, j'en sais rien, ou autres. Mais pour moi, en fait, la philosophie, elle appartient en fait aux arts. Et dans ce sens-là, peut-être ça explique aussi que petit à petit, en fait, je suis sorti du domaine universitaire et suis allé de plus en plus en fait vers les arts, les musées, les expos et la pratique artistique en elle-même.
Mon corps, C'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours, que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
Michel Foucault, 1966. Paul B. Preciado, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous racontez au fur et à mesure des chroniques qui sont réunies dans un appartement sur Uranus, c'est précisément l'inverse de ce sur quoi conclut Michel Foucault dans cet archive, c'est-à-dire, je reprends ces mots, un lieu sans recours auquel je suis condamné pour décrire son propre corps. Est-ce que c'est la décision que votre corps à vous, ce ne sera pas ça?
En fait, ça me fait beaucoup rigoler, en fait, écouter cet extrait de Foucault. D'autant plus que c'est un texte que je connais très bien, mais effectivement, entendre ce texte
dit par lui,
c'est très rigolo.
C'est il y a 53 ans, c'est important aussi de se redire ça.
Tout à fait, c'est vraiment un grand-père quand même, dans tous les sens. Hein. Pour nous, pour notre génération, je pense que c'est extrêmement important, et en même temps, on est toujours en fait un peu en conflit avec lui. Mais je pense en fait que les corps de Foucault ne pouvaient pas être du tout la même chose, en fait, par exemple, que les miens, dans le sens où je pense que Foucault, quelque part, il a passé toute sa vie à faire l'économie d'une parole radicalement politique sur son corps. C'est-à-dire que, par exemple, il tenait jamais un langage autobiographique, ou très rarement, donc quelques entretiens. Par exemple, c'est déjà assez étrange.
Presque, il est à la frontière de ça, là, voilà, quand il dit là, ça. Je me regarde dans le miroir, c'est pas facile, j'ai cette voix, j'ai cette peau, c'est pas simple.
C'est vrai, mais en même temps, il parle pas tellement de son désir, il parle pas justement des corps qu'il désire avoir, justement. Il parle du corps, en fait, que les autres peuvent aussi voir. Et donc, je pense que pour Foucault, peut-être les corps, malgré le fait qu'il a été quand même les grands historiens constructivistes et l'historien aussi de la médecine, peut-être les rapports qu'il avait à son corps, c'était un rapport, pour le coup, en fait, trop anatomique, en fait, qu'il continuait à penser son corps comme une anatomie, donc comme un objet. Alors que je pense que ce qui est arrivé en fait à partir des années 80-90 et surtout avec les mouvements trans, c'est qu'on a commencé en fait à penser les corps comme une technologie, en fait, comme un dispositif culturel, que c'est pas qu'on pouvait nous transformer. C'est-à-dire que c'est pas que mon corps, parce que je suis trans, est plus transformé que les vôtres, parce que vous êtes pas trans, par exemple. Mais que nous tous, en fait, que nos corps, en général, sont des effets des dispositifs technologiques plus ou moins sophistiqués. Et parfois, on est conscient ou pas de ces dispositifs. Mais c'est-à-dire qu'il y a personne aujourd'hui qui construit son corps, par exemple, en fait, sans la médiation d'aucune technique pharmacologique. Je ne connais vraiment, très rarement, je pense qu'il y en a très très peu de personnes, y compris en fait qu'il y a pas des corps qui sont en dehors d'un système de représentation, d'une épistémologie des pouvoirs. Et donc c'est assez étrange que justement que Foucault, qui était vraiment peut-être le premier à avoir affirmé ça quelque part, ne pensait pas son corps comme on ne pensait pas à la possibilité d'une réappropriation critique et politique de son corps.
En tout cas, pas de manière publique. C'est ça qu'on peut considérer. On peut considérer qu'il ne l'ait pas fait de manière publique et qu'en revanche, dans sa tête ou de manière privée, il ait pu le penser. Mais ce qui est intéressant dans cette archive-là, c'est qu'en gros, il établit un rapport avec son corps comme avec un état de fait. Oui. En gros, c'est l'ordre qui est là. Et à vous lire et à vous lire raconter votre chemin, Paul B. Preciado, on a l'impression qu'à un moment donné, vous vous dites, mais comme le texte que je lisais en introduction, ça peut être autrement. En fait, ça peut être autrement qu'une table et une chaise, ça peut être autrement qu'un appart meublé. Peut-être on peut essayer que ce soit autrement.
Oui, mais peut-être pour Foucault, justement, ce n'était pas possible, en fait. Parce que, justement, je viens de faire un travail, en fait, avec l'artiste Shuli Chiang pour les pavillons de Taïwan à Venise, justement. Et on a travaillé sur Foucault dans les années 50. Hein. On a travaillé sur de différents cas historiques, en fait, des personnes qui ont été enfermées pour des questions de genre et de la sexualité. Et parmi eux, justement, Foucault, parce que j'étais récemment, en fait, en Pologne. Et du coup, en fait, un chercheur polonais est venu me dire, en fait, qu'il s'avait finalement trouvé les archives selon lesquelles Foucault avait été accusé d'homosexualité en 1958, quand il était attaché culturel au Centre culturel français. Et donc, à ce moment-là, justement, il a été forcé de partir à Hambourg très rapidement. Et c'est ce qui est encore plus fascinant, c'est que, étant quand même les grands historiens de la sexualité et l'historien aussi de la prison, il n'a jamais parlé, lui, de cet événement qui a dû être quand même extrêmement fondateur à ce moment-là. D'autant plus qu'il était en train de finir, justement, pour le coup, l'histoire de la folie. Donc pour moi, en fait, le fait qu'il parle vraiment, je pense, d'une impossibilité qu'il a rencontrée lui dans sa vie. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, pour devenir Foucault, l'historien qu'on connaît et les philosophes qu'on connaît, il a dû faire quelque part, en fait, mettre peut-être en fait un arrêt sur un certain nombre de désirs, des transformations de son corps, y compris en fait des expressions publiques de son corps, que peut-être il a vécu uniquement en Californie, par exemple.
Ça voudrait dire qu'une partie de sa pensée aurait pu être, et après on va arrêter de faire des si et des si, hein, Paul B. Preciado, mais complétée par une forme de parole quoi plus intime. Vous diriez que ce que vous développez dans Un appartement sur Uranus, c'est de cet ordre-là?
Mais pour moi, en fait, c'est pas une parole intime. C'est pas tellement une parole intime. Parce qu'en fait, même dans l'extrait qu'on vient de lire de Foucault, il y a beaucoup d'intimité. La question, en fait, c'est comment c'est considéré, par exemple, que le corps est intime, alors que le corps est la chose la plus politique et la plus publique qu'il soit. Il n'y a rien qui est plus montré constamment, en fait, qu'on partage constamment comme ça entre nous, que les corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que parler de l'intime? Pour moi, c'est pas tellement l'intime, en fait. C'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de interdictions dans les langages philosophiques, certain nombre de choses qu'on peut pas faire, et qui, pour moi, peut-être, en fait, sont venues...
Dire je, par exemple? Assumer une sorte de totale subjectivité?
Et même, y compris, en fait, si c'est pas une parole subjective. Parce que parfois, dire je, en philosophie, ça veut pas dire forcément, en fait, avoir une parole subjective. Donc, ça peut être aussi une parole, pour les coups, par exemple, comme la mienne dans ce livre, quand je dis qui dit je dans ce livre qui a été signé au moins par trois noms différents. Donc, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal, en fait, à savoir qui était la personne qui parlait dans ce livre. Et donc, je suis pas du tout sûr que ça soit vraiment ni sur l'intime, ni sur le autobiographique, mais plutôt les multibiographiques, si on peut se dire. On peut dire quelque chose comme ça.
Et ça, par exemple, le fait que ces chroniques soient signées par au moins trois prénoms différents, parce qu'à chaque fois, il y a aussi des discussions qui sont assez... pour le coup, émouvante avec le journal Libération quand il s'agit de savoir par quel nom vous allez signer. C'est vraiment, c'est assez beau parce que c'est des négociations qu'on imagine par téléphone ou par mail et qui disent un chemin. Vous diriez que cette multiplicité des noms possibles est une joie? Ou vous diriez que c'est un, quand vous disiez tout à l'heure, j'avais du mal à savoir, que c'est un inconfort? Ou les deux, une joie inconfortable?
Bah, c'est-à-dire que quand... Quand on est en train d'échanger des noms, et je parle là d'un processus légal, en fait, vraiment, parce qu'à un moment donné, en fait, je fais justement appel à la loi pour changer mon nom, puisque je pouvais plus traverser les frontières avec mon passeport féminin. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que tout est devenu très complexe. Et j'ai décidé, effectivement, de chercher un nom masculin. Et j'ai demandé en fait à mes amis de chercher des noms pour moi. Bon, c'était une catastrophe. Et ils ont commencé à chercher des noms que j'aurais pas pu porter, donc Orlando, enfin bref, très Virginia Woolf ou autre, enfin au Moïse par exemple. Enfin, je dis mais non, là vous partez en fait très loin. Je suis pas du tout sûr de vouloir m'appeler comme ça. Et donc par la suite, en fait, je fais appel justement à une chamane. Puisque parfois, dans mon rapport à la testostérone, j'essaie justement de trouver des technologies de production des corps, de production de la subjectivité ou de la conscience, qui ne sont pas exactement celles que propose la médecine traditionnelle. Et donc parfois, justement, dans mon rapport avec la testostérone, je me suis intéressé beaucoup aux rapports qu'ont les chamans, par exemple, avec la plante ou avec la ayahuasca, etc. Puisqu'il y a un moment, en fait, où, effectivement, dans les délires des transitions, on se met à parler avec la testostérone, puisqu'on est vraiment totalement fabriqué, transformé dans ces rapports très étroits avec cette substance. Et donc bon, j'ai fait un rituel chamanique en fait avec une chamane qui m'a dit votre nom va arriver dans un rêve. J'ai dit bon d'accord, écoutez, suivez-nous très loin, enfin d'être très loin pour parler avec vous, et finalement mon nom va arriver dans un rêve. Merci. Et c'est arrivé en fait quelques temps après, et peut-être c'est pour ça aussi que finalement les rêves sont très importants dans mes chroniques et dans ces livre-là. Et aussi, peut-être aussi, pour moi, c'était une autre tradition de la philosophie, parce que les problèmes, pour moi, par exemple, quand on parle du corps, de la sexualité, c'est que les disciplines qui se sont appropriées, c'est l'hégémonie, en fait, linguistique sur ces objets-là, sont soit la médecine, soit la psychiatrie, soit la sexologie. Donc, peut-être, comment trouver un autre langage. Et du coup, effectivement, là, les rêves, en fait, et donc, j'ai rêvé. Et mon nom, je rêvais ce nom, petit et ridicule, qui est Paul. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, ça va pas être mon nom. Mais oui, j'ai appelé ma chamane qui m'a dit, tout à fait, c'est ton nom. Donc voilà. Et donc, j'ai dû quand même changer mon nom. Donc évidemment, j'ai appelé aussi les journaux pour dire, voilà, demain, je vais signer ma chronique des noms de Paul. Et donc, j'ai commencé à utiliser les noms de Paul avant que ces noms soient reconnus par la loi. C'est venu beaucoup plus tard, c'est-à-dire que pendant plus d'un an, j'étais vraiment sans passeport. En fait, je me suis retrouvé vraiment comme un migrant du genre, puisque je pouvais pas vraiment traverser les frontières, où j'étais forcé parfois de me réféminiser avant la frontière, par exemple pour rentrer à Beyrouth, c'était pas évident. Et donc des coups, oui, il y a tout un trafic en fait des noms, où on commence à comprendre en fait que les noms finalement c'est pas quelque chose de stable, en fait.
Mais d'autant plus que vous le rendez instable. Dans l'introduction, je disais, dans cet archive-là en 2016, que vous avez peur du moment où vous allez être enfin nommé. Et d'une certaine manière, peut-être vous avez eu raison d'avoir peur, puisqu'au moment de la décision juridique d'inscrire ce nouveau nom Paul, vous êtes rendu compte que, en réalité, cette instabilité-là, elle était perdue, et que le juge vous tapait sur l'épaule en disant, OK, super, bienvenue au club, bienvenue chez les hommes. Et qu'est-ce que vous avez introduit, justement, pour que l'instabilité demeure?
C'est vrai que j'ai demandé au juge, en fait, de m'appeler Paul Béatrice. Est-ce qu'il a trouvé complètement grotesque? Donc, il a essayé de convaincre mon avocate de pas les faire, parce qu'il m'a dit, mais pourquoi vous voulez vous appeler Paul Béatrice? Ça n'existait pas. Et donc, nous, on a défendu, en fait, la cause légale selon laquelle les noms fondamentaux qui portent, soi-disant, le sexe et les premiers noms, en fait, comme par exemple Jean-Marie ou autre, en fait, donc on peut avoir un dossier non féminin. Et donc ça a été quand même toute une bataille juridique, mais c'était intéressant aussi. En même temps, je vais dire que je n'ai pas du tout joué la carte de révolutionnaire politique devant les juges. Puisqu'on ne peut pas... Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, si on s'oppose radicalement au régime de la différence sexuelle devant la loi, on risque effectivement de passer totalement à côté et de se retrouver retrouver sans carte d'identité, sans passeport.
Dans propos, dans la plaidoirie par exemple, dans la prise de parole.
Absolument, absolument. C'est pas un moment où je commençais en fait à faire mon activiste trans radical devant les juges. Ça, c'est il faut bien au contraire. C'est-à-dire que devant les juges, justement, ça met en place un théâtre politique.
De rejoindre l'un ou l'autre camp. J'ai besoin, monsieur ou madame le juge, d'être un homme et d'être nommé comme
absolument.
Tel.
Absolument, vous passez en fait un examen des masculinités et c'est le moment d'être un bon candidat pour la masculinité et vous n'êtes pas là vraiment pour parler justement d'une critique du régime patriarcal ou de l'hétérosexualité comme régime politique. Ça vraiment c'est pas du tout le moment de faire ça et en même temps voilà c'est les contradictions, c'est que j'ai besoin en fait effectivement d'avoir cette prothèse ce que j'appelle en fait une prothèse sociale et politique qui est un passeport tout simplement.
Qui est Paul.
Qui est Paul, effectivement, qui est Paul Béatrice Preciado. Et sans laquelle, sans cette prothèse politique, je ne pourrais pas en fait habiter cette société. Et je pense que c'est la même chose, par exemple, que demandent les migrants. Ils ne demandent pas du tout en fait de devenir français en tant que français, mais ils demandent tout simplement en fait d'avoir accès à cette prothèse politique qui permet la reconnaissance de vous en tant que citoyen en fait du monde.
Très loin de l'indécidable, prôné par Jacques Derrida, on va l'entendre en 1998 dans les entretiens avoignés au micro de Catherine Paoletti.
J'hésite à me servir maintenant de ce mot d'indécidable parce qu'on l'a si souvent interprété de façon ridicule, je dois le dire, comme paralysie, hésitation, neutralisation, de façon négative. Pour moi, l'indécidable est la condition de la décision, la condition de l'événement. Et puisque vous me parlez du plaisir ou du désir, il est évident que si je savais et pouvais décider d'avance que l'autre était bien l'autre identifiable, accessible au mouvement de mon désir, s'il n'y avait pas toujours le risque que l'autre ne soit pas là, que je me trompe d'adresse, que mon désir n'arrive pas à destination, que le mouvement d'amour que je destine à l'autre s'égare ou ne rencontre pas de réponse, s'il n'y avait pas ce risque-là, qui est un risque de marqué d'indécidabilité, il n'y aurait même pas de désir. Il n'y aurait même pas de désir. Il y aurait, je ne sais pas quoi, une satisfaction si pleine et si initiale qu'il n'y aurait même pas le temps ou l'espace du désir. Donc le désir s'ouvre à partir de cette indétermination-là, qu'on peut appeler l'indécidable, par exemple. Par conséquent, je crois que comme la mort, l'indécidabilité, ce que j'appelle aussi la destinée errante, c'est la possibilité pour un geste, non seulement une lettre, mais un geste, un regard, une parole, de ne pas arriver à destination, est la condition du mouvement de désir, qui mourrait d'avance autrement.
Jacques Derrida, donc, en 1998, Paul B. Preciado, vous disiez tout à l'heure rapidement que finalement, c'est aussi au contact de sa pensée, puis avec un déplacement vers les États-Unis, que les frontières de votre philosophie ou de votre rapport à cette discipline se sont modifiées. Ce qui est intéressant dans cette archive d'il y a un peu plus de 20 ans, c'est ces mots qu'il utilise, destinérance, et l'idée que l'indécidable est la condition de son désir. Or, une des critiques que vous mentionnez dans ce livre-là, ou des critiques qui vous sont apportées, ou une des peurs, on pourrait considérer, c'est que une sorte de non-altérité, de non-division du monde, avec d'un côté le féminin et d'un autre côté le masculin, enlèverait le désir, enlèverait la différence, enlèverait l'autre. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ah, mais pour moi, en fait, l'opposition ne se fait pas entre un régime, une épistémologie binaire de la différence sexuelle et un régime totalement homogène. Ça serait ridicule. D'ailleurs, en fait, ce serait plutôt revenir au régime sexuel d'avant la modernité. C'est-à-dire les régimes sexuels dans lesquels il n'y avait qu'un seul sexe, c'est-à-dire les sexes masculins. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel on a été à peu près pendant des siècles, en fait, jusqu'au 16e, 17e siècle, quand la notion de différence sexuelle a commencé à émerger. Donc, je voudrais absolument pas, en fait, parler de quelque chose, en fait, d'homogène ou sans différence.
Pour mais il y a des gens qui utilisent cette espèce de mal compréhension.
Oui, mais attention, parce que pour moi,
déformer et pour critiquer.
Ouais, mais pour moi, la question, ça serait justement ouvrir cette épistémologie sexuelle, si vous voulez l'appeler sexuelle, en fait, à une multiplicité des incarnations et des formes de désirs. Il y a une multiplicité radicale. Hein. C'est quelque chose qui a été fait aussi, en fait, par exemple, Deleuze et Guattari parlaient des N plus 1 pour parler justement de cette devenir dans la multiplicité, radicalement irréductible à la différence en tant que binaire. Parce que, et là, je pense que Derrida aurait été totalement d'accord avec moi, parce que justement, c'était... je pense que s'il y a quelqu'un, en fait, qui nous a quand même impacté dans la critique du binarisme, c'était vraiment Derrida. Et je pense que notamment, parce qu'il était aussi... très impacté lui-même par le féminisme. Parce que souvent, on parle justement de Derrida et de Foucault, mais on ne dit pas qu'en fait, peut-être les backstage de ces philosophies, en fait, post-structurelles françaises, étaient effectivement les féminismes, les mouvements féministes, les mouvements homosexuels à l'époque, qui étaient en train justement d'ébranler ces catégories binaires.
D'ailleurs, vous décrivez et vous dites souvent que vous aussi, c'est une pensée et un combat féministe et puis queer et trans qui sous-tend votre pensée. Par exemple, vous dites que la mise sur la table publique et un peu populaire de la critique du viol, de la pensée du viol par Virginie Despentes a été un moment fondateur avant même le MeToo et avant même tout ce qui a pu succéder, Paul B. Preciado. Pourquoi, selon vous?
Ah, pour moi, je... D'une part, parce que j'ai vu émerger ça, c'est-à-dire que je me souviens, en fait, parce que quand j'écrivais Testo Junkie, en fait, c'est le moment où Virginie était en train d'écrire King Kong Theory. Et donc, ça s'est fait dans les dialogues beaucoup, en fait. Et j'ai vu aussi, c'est pas simplement que moi, j'avais beaucoup de mal et que j'ai hésité, en fait, à faire la transgression à l'intérieur de la philosophie en mettant, en fait, cette récite, ces protocoles des transformations de mon corps, de ma subjectivité avec la testostérone. C'est aussi que j'ai vu, en fait, Virginie lutter, s'est posé beaucoup de questions de comment elle allait prendre la parole par rapport à sa propre expérience du viol. Et c'était très, très, très difficile puisqu'il y avait vraiment, il n'y avait pas des livres avant, il y avait quelques petits livres aux États-Unis, en fait, justement, et souvent dans les féminismes noirs, qui parlaient justement du viol. Je pense que c'est les féministes noirs qui, tout d'abord, ont dénoncé les viols comme pratique institutionnelle à l'intérieur de la colonisation. Mais vraiment, il n'y avait pas une parole des femmes qui écrit, des femmes intellectuelles, qui va parler de son propre viol à la première personne, ça n'existait pas. Et donc, du coup, c'est vrai, j'ai vu Virginie, en fait, aussi être très, très travaillée, tiraillée par ça. Et je pense que, voilà, on est tous les deux, je ne sais pas comment on a fait, mais on est sortis tous les deux, on s'est dit, bon, allez, on y va. Vraiment, c'est pas... c'est sort des folies collectives qui nous a appris. Et puisqu'en fait, les livres sont sortis avec pas beaucoup de différences dans les temps. Et pour moi, ça a été une bombe épistémologique, en fait. Puisqu'en fait, cette... La critique du viol, pour moi, c'est la critique fondatrice, pour moi, en fait, du patriarcat. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui permet de maintenir le patriarcat en tant que patriarcat, c'est la définition, ce que j'appelle la définition nécropolitique de la masculinité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, en fait, que la masculinité souveraine s'est définie en tant que souveraine par l'usage des techniques de violence. Et notamment, en fait, par rapport aux autres hommes, par rapport aux non-humains, par rapport aux animaux, par rapport à ce qu'on appelle la nature en général, on ne va pas rentrer ici à parler de la nature, mais par rapport aux non-blancs, et par rapport aux femmes, et par rapport aux enfants, etc. C'est-à-dire que la masculinité est considérée en tant que souveraine, dans la mesure où elle peut faire l'usage, et avoir les monopoles, pas simplement l'usage, mais les monopoles des techniques de la violence. Et ça, en fait, évidemment, c'est les croisements entre les pratiques des désirs et des subjectivations et de ces techniques de la violence qui fait la solidité de l'hétérosexualité en tant que régime politique. Je pense que c'est ça que quelque part en fait les féministes des années 70-80 avaient commencé à travailler avec Monique Wittig ou avec Adrienne Rich par exemple, mais qu'il a fallu par exemple la parole de quelqu'un comme Virginie Despentes en fait pour se dire c'est pas uniquement un régime politique, c'est-à-dire une épistémologie des savoirs et un régime cognitif, c'est pas simplement en fait des catégories, mais c'est aussi une politique du désir. La question en fait c'est comment on va peut-être en fait apprendre collectivement à désirer autrement. Est-ce qu'on est prêt à désirer la liberté,
notamment sans le pouvoir? C'est aussi très intéressant. C'est qu'est-ce
Exactement.
Qui reste de la possibilité de désirer pour un corps qui d'un seul coup n'a plus de pouvoir?
Exactement. Et ça, je pense que c'est la grande question. Et c'est pour ça que pour moi, la révolution féministe est absolument nécessaire et sera vraiment une des plus transformatrices en fait dans le XXIe siècle. Par contre, la question en fait, c'est effectivement dans quelle mesure il est nécessaire aussi d'ouvrir cette révolution féministe pour ne pas la faire uniquement un mouvement des politiques d'identité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, la grande question, c'est il faut un mouvement de désidentification à l'intérieur de la masculinité. C'est-à-dire à quel moment les hommes eux-mêmes, c'est-à-dire les corps qui ont été assignés hommes à la naissance et qui encore aujourd'hui s'identifient en tant qu'hommes, à quel moment ils vont se désidentifier par rapport à cette définition nécropolitique de la masculinité. Ils vont se dire, bon voilà, on veut produire et travailler notre masculinité, mais pas du tout en rapport aux techniques de la violence.
Et c'est quand même une des chroniques poignantes, Paul B. Preciado. C'est le moment où vous dites, je vous écris depuis l'endroit où je suis maintenant, depuis après ma traversée, depuis ce genre d'homme que j'ai rejoint, et je vous dis que c'est pire que ce qu'on raconte.
C'est vrai.
C'est pire que ce qu'on raconte.
C'est vrai.
Vous
c'est
dites, vrai. Je suis trans maintenant, j'appartiens toujours à ce qu'on appelle la minorité des femmes, et ce dont je peux témoigner maintenant que je jouis de cette prothèse masculine pour évoluer dans le monde, c'est que c'est pire. Ce que subissent les femmes, c'est pire. J'en ai les frissons en lisant parce que peu de gens peuvent prononcer cette phrase-là et je trouve que ça renseigne. Bizarrement, ça renseigne plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je saurais dire pourquoi, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est une bombe venue d'un autre monde, quoi.
Bah ouais, parce que quelque part aussi, j'ai vécu pendant tellement longtemps à l'intérieur de la culture féministe et queer, que franchement, et ce qui est paradoxal en fait, quand on devient un homme trans, c'est qu'en fait, en réalité, pour moi, la masculinité, c'est quelque chose de très très lointain. Je n'ai pas affaire à la masculinité d'habitude, enfin à la masculinité hétérosexuelle, normative. Mais sauf qu'effectivement, en devenant moi-même une fiction politique, qui apparemment est reconnu en tant qu'homme, bah là je me trouve parfois dans des contextes, dans des conversations où vraiment je suis vraiment totalement étonné. Et effectivement le fait que j'ai grandi en tant que fille, j'étais toute mon éducation a été une éducation vraiment vraiment pour féminiser mon corps et pour transformer ma subjectivité en subjectivité féminine. Donc et après mon exercice a été aussi un exercice de désidentification critique. Mais le problème c'est qu'une fois que j'ai rejoint l'éclat de la masculinité, attention parce que c'est quand même mon rapport avec cette masculinité est très complexe et on va dire pas toujours jouissif, dans le sens où la mémoire de mon éducation et de mon processus...
Et d'une mémoire de condition aussi.
Absolument, une mémoire de l'oppression aussi, est intacte. Donc, ouais, c'est vrai que parfois, en fait, voilà. Et surtout, le fait que parfois, en tant qu'homme trans, on n'est pas reconnu immédiatement. C'est-à-dire que maintenant, je me dis, bon, il va falloir que je fasse un gros tatouage, quelque chose de vraiment... Les gens me disent, ouais, mais il faut mettre un boucle d'oreille. J'ai dit, oui, mais bon, pour l'instant, je suis comme ça, en fait. Et du coup, les gens se pensent que je suis un homme hétérosexuel tout à fait normal. Et donc, ils commencent, en fait, à me faire des remarques extrêmement sexiste par rapport aux femmes, où il me parle des femmes comme si c'était des êtres venus d'une autre planète. Je me dis, mais attendez, mais de quoi vous parlez? Enfin, moi, j'étais, il y a quelques années, j'étais ça dont vous parlez, c'était pas tout ça. Hein. Donc, ouais, je pense que c'est assez terrible. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, les combats est révolutionnaire, doit rester révolutionnaire, ne peut pas être simplement une espèce de compromis. Je pense qu'il faut un changement radical.
Ni l'idée, ni compromis, ni l'idée de rejoindre une identité. identité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça n'est pas un combat pour une autre identité, c'est pas
la question. Ah oui, non, absolument. Mais pour moi, ça, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, nos mouvements des luttes se sont restructurés en tant que politique d'identité. Et donc, il y en a eu, effectivement, les féminismes pour les femmes, les politiques, aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait plus rien. Enfin, mais en tout cas, vous êtes une minorité sexuelle, bon, vous faites des politiques LGBT. Si vous êtes noir, vous faites des politiques antiracistes. Donc, il y a vraiment une segmentation des identités. De fait qu'effectivement, peut-être on est devenu mieux. Enfin, on est devenu plus femme, on est devenu plus homosexuel. Mais est-ce qu'on est devenu plus libre? J'en doute, en fait. Je pense que absolument pas. Et pour moi, la seule chose qui m'intéresse en tant que philosophe, mais en tant qu'artiste, si vous me posez la question, c'est effectivement la fabrication de la liberté. C'est comment on va fabriquer la liberté collectivement. Et je crois que c'est pas du tout, en fait, par le biais de l'identité. France Culture, parlez tant qu'il court. Marie Richeux, avec Paul B. Preciado.
Est un sniper aveugle comme le rire, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que le sont les chiennes. De temps en temps, il tire, sur une professeure en province ou sur un père de famille. Et boum! Pour ceux qui ont le courage de regarder la blessure en face, la balle devient la clé d'un monde dont ils n'avaient jamais rien vu auparavant. Les rideaux s'ouvrent, la matrice se décompose. Mais parmi ceux qui portent la balle dans la poitrine, quelques-uns décident de vivre comme s'ils ne sentaient rien. D'autres compensent le poids de la balle en faisant de grands gestes de don Juan ou de princesse. Des médecins et des églises promettent d'extirper la balle. On dit qu'en Équateur, une nouvelle clinique évangéliste ouvre chaque jour pour rééduquer les homosexuels et les transsexuels. Les foudres de la foi deviennent des décharges électriques. Mais nul n'a jamais su comment extirper la balle. Ni les mormons, ni les castristes. On peut l'enfouir plus profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien. Elle sera toujours à tes côtés. J'avais 3 ans quand, pour la première fois, j'ai senti le poids de la balle. J'ai su que je la portais en entendant mon père traiter de sale gouine dégueulasse, deux filles étrangères qui marchaient en se donnant la main dans la rue. Ma poitrine s'est mise à brûler. Cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai imaginé pour la première fois que je m'échappais de ma ville et que je partais dans un autre pays. Les jours qui suivirent furent des jours de peur et de honte. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent, enkystés dans leur plexus, une balle ardente. Par simple déduction statistique et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Ils portent des banderoles qu'on a mises entre leurs mains, qui disent « Ne touchez pas à nos stéréotypes ». Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Leurs parents hurlent que les groupes LGBT ne doivent pas entrer dans les collèges. Mais ces enfants savent que ce sont eux les porteurs de la balle LGBT. La nuit, comme quand j'étais enfant, ils vont au lit avec la honte d'être les seuls à savoir qu'ils sont la déconvenue de leurs parents. Ils vont se coucher avec la peur que leurs parents les abandonnent s'ils apprennent, ou préfèrent encore qu'ils meurent. Et ils rêvent peut-être, comme moi avant eux, qu'ils s'enfuient dans un pays étranger, dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons, ici. Nous sommes nombreux, nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes, vous n'êtes pas seuls.
C'est un extrait de Un appartement sur Uranus, lu par Romain de Bec-de-Lièvre, qui me pousse à vous demander quelle est la part de la tendresse dans l'écriture de ce livre-là.
Alors, je suis étonné par votre question. Pour moi, la tendresse, c'est très important. Parce que qu'on en est confronté au rejet, en fait, depuis l'enfance. Il y a que la tendresse qui vous sauve, en fait. Et du coup, c'est devenu de plus en plus important pour moi de donner ça aussi dans mon écriture. J'ai l'impression, puisque avant j'avais une écriture très combative, en fait. J'avais l'impression qu'il fallait, voilà, porter ça comme une espèce de marteau en étien. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que plus important presque que la critique est vraiment, enfin, une écriture du soin, quelque chose que, voilà, puisque, ouais, pour moi, il y a comme deux processus, en fait, qui vont ensemble. D'un côté, la thérapie politique, et de l'autre côté, l'émancipation cognitive. Et voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux.
Puisque vous disiez tout à l'heure que finalement, il y avait un horizon, Paul B. Preciado, qui était une multiplicité radicale des désirs. Des corps aussi.
Des désirs, des corps,
des
formes et
des
vies.
Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi je pose la question de la tendresse, d'une part, parce qu'elle est assez manifeste dans l'extrait que vient de lire Romain, mais aussi parce que je me dis, est-ce qu'il ne faut pas être doté de ça? Alors, pas que ça, mais quand même de ça pour accueillir cette multiplicité. Parce qu'à un moment donné, quand tout devient pluriel, quand tout devient plus, finalement, en fait, plus différent, plus inconnu, plus indécidable, il faut être dans une disposition politique, sensible, d'ouverture, quoi. Et bon, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une forme de tendresse qui, évidemment, j'espère que vous l'entendez sans niaiserie, hein, mais.
Ouais. Non, mais c'est bien.
Et en plus, même si
c'est avec beaucoup de niaiserie, je pense que c'est bien. Parce que justement, les problèmes, c'est que nos traditions politiques sont tellement marquées par cette définition nécropolitique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par les rapports entre souveraineté et violence, qu'on a des mal à penser que la souveraineté peut être aussi des côtés de la faiblesse, des côtés de la fragilité. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de faire, y compris avec philosophiquement. C'est-à-dire que pour moi, l'ancrage de ma philosophie est les corps mortel, vulnérable, fragile, et donc forcément tendre. Voilà.
D'une certaine, c'est aussi un point de rencontre possible avec la philosophie de Judith Butler, quand par exemple elle s'intéresse à la manière dont certains corps n'ont pas le droit à être enterrés, n'ont pas le droit à une considération. En fait, c'est vraiment penser à partir du plus vulnérable. C'est même pas penser pour le plus vulnérable. Ouais. C'est à partir du plus vulnérable. Et par exemple, il y a une de vos chroniques qui demande, mais en fait, qui s'occupe de l'enfant queer? Ouais. Tout le monde parle des enfants, du bien-être de l'enfant, un papa, une maman et compagnie, mais qui s'occupe de l'enfant queer?
Oui, parce que pour moi, les problèmes, c'est que l'enfant est toujours instrumentalisé dans les débats sur la sexualité. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant ce qui est arrivé dans les années 70, avec une politisation radicale de l'enfance. Mais effectivement, juste après, en fait, toute parole sur la sexualité de l'enfant est devenue impossible. Puisque évidemment, on fait la confusion très souvent entre pédophilie et critique de la sexualité de l'enfant.
Ce qui est quand même vraiment un contresens dangereux.
Voilà, exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est presque impossible, en fait, de parler de la sexualité des enfants. Et par contre, en fait, oui, l'enfant, c'est les lieux par excellence de la normalisation du genre, de la sexualité. Et c'est les lieux dans lesquels cette violence, cette pédagogie nécropolitique agit par excellence. Donc, il faut protéger l'enfant, oui, certainement, mais pas de la sexualité telle qu'on l'entend, mais plutôt de la violence, de l'assignation du genre et de la sexualité, puisque ça commence par l'enfance, ça commence par ce qu'on appelle tout simplement l'acte de recevoir un enfant au monde, qui est un acte clinique aujourd'hui, est un acte technique et clinique, et qui est un acte, en fait, qui va faire la reconnaissance de ces corps à l'intérieur de ces épistémologies de la différence sexuelle. Et si ces corps n'est pas en accord avec les standards de la masculinité, de la féminité, il va être évidemment considéré en tant que pathologique et immédiatement soumis à tout un ensemble, en fait, des techniques, soit des opérations, soit des techniques endocrinologiques que on pourrait aujourd'hui qualifier...
Pour le rapprocher de l'un ou l'autre des pôles.
Oui, tout à fait, et qu'on pourrait en fait qualifier tout simplement en fait des violences et des mutilations génitales. Donc, je pense qu'effectivement là, il faudrait prêter beaucoup plus d'attention à l'enfant, pas du tout en fait comme un espèce de en idéalisant l'enfant, en fait, en pensant qu'il faut le protéger, mais plutôt, en fait, à répolitiser l'enfance. Et oui, moi, je pense qu'il faut attendre, en fait, peut-être une révolution des enfants. Et c'est pas étonnant, par exemple, qu'une nouvelle révolution écologique commence aujourd'hui avec les ados.
Vous les citez, hein, d'ailleurs, hein, tous ces vendredis, comme ça, imaginés par une forme de jeunesse mondiale contre la manière dont nous ne prenons pas soin écologiquement de notre planète. Mais puisqu'on parle des enfants, une des autres possibilités, parmi plein de choses que vous racontez, hein, c'est de ne pas en faire. Il y a un texte qui est aussi très clair, où vous dites, refaisons la grève des utérus. Ouais. Une des manières de ne pas donner suite à certains régimes politiques, nationalistes, identitaires, racistes, c'est tout simplement de ne pas se laisser ensemencer par un sperme qui serait celui-ci. C'est à la fois évidemment métaphorique, à la fois en même temps extrêmement clair, extrêmement pratique. Paul B. Preciado, c'était l'une des chroniques. Vous vous souvenez dans quel état vous l'avez écrit?
Oui, cette chronique-là, je pense que je l'ai écrit à Paris. Justement, je l'ai écrit quand j'étais encore avec Virginie. On a pas mal rigolé, puisque... Oui, parce qu'en fait, je pense que de la même manière qu'il y a vraiment cette définition de la souveraineté masculine en tant que souveraineté nécropolitique, il y a de l'autre côté la définition de la féminité souveraine.
Avec la mère qui serait la seule souveraine.
Effectivement, avec l'espace des reproductions biopolitiques. Et je pense qu'il faut se poser aux deux. Et je pense qu'on n'a pas besoin de, personnellement, je crois qu'on n'a pas besoin de se reproduire, qui est vraiment, quand on parle justement d'écologie politique, la première chose qu'il faudrait faire, c'est tout simplement arrêter de se reproduire. Je vois pas du tout à quoi ça sert. Et effectivement, après, je pense pour moi, une des manières de parler de politique, c'est justement commencer à penser qu'est-ce qu'on veut faire collectivement de nos organes, nos fluides, nos cellules. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, même sans le savoir, quand vous êtes assigné homme ou femme à la naissance, en réalité, vous êtes pensé par l'État en tant qu'un potentiel reproductif. au reproducteur. Et des coups, en fait, où vous êtes pensé en tant que, qu'organe, par exemple en tant qu'utérus, en tant que porteur des spermes. Et donc, je pense qu'une des choses, en fait, qu'on peut faire, c'est justement des stratégies de désidentification qui ne sont pas uniquement par rapport, justement, à l'identité hétérosexuelle ou homosexuelle, qui, pour moi, par ailleurs, n'existait pas, enfin, seulement en tant que fiction politique, en fait, de 19e siècle, mais qui sont vraiment des catégories totalement obsolètes pour moi, aujourd'hui. Mais aussi, il faut s'opposer, justement, à l'usage normatif de nos cellules. Et de nos corps, de nos organes, en fait. C'est-à-dire que, oui, on peut dire, en fait, voilà, je vais arrêter de me reproduire ou de faire un usage reproductif de mon utérus.
Et c'est là, malheureusement, mais c'est très bien parce que c'est pour les lectrices et les lecteurs à un endroit de découverte de votre livre, Paul B. Preciado, que ça se précise l'idée de l'hétérosexualité comme un régime politique. Et ça veut dire que ce que vous entendez sous le terme de révolutionnaire rejoint vraiment une critique d'un système capitaliste et néolibéral. Et d'un seul coup, on se rend bien compte que se poser la question de la reproduction, se poser la question de l'hétérosexualité comme la normes, se poser la question de la pénétration et de est-ce que j'utilise mon anus, mon utérus, est-ce que je n'utilise peut-être plus que mon anus par exemple, ou ma bouche, mes oreilles et mes doigts, est un endroit de lutte politique réelle. Je vous vois sourire, mais en fait, c'est bien plus sérieux que ça n'a l'air.
Non, mais tout à fait, je souris simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé justement si les titres de ces livres, Un appartement sur Uranus, étaient intentionnels par rapport à l'anus. Et je me suis dit, non, pas du tout. Mais comment tout ça, c'est venu dans un rêve, on ne sait jamais, parce que voilà, il y a l'inconscient ou les inconscients qui travaillent. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que pour moi, la sexualité est aussi un champ d'expérimentation performative et qui m'intéresse la proximité entre l'art et la sexualité. Pas du tout, en fait, dans cette stupidité, en fait, des pensées qu'à chaque fois qu'on travaille sur la sexualité, on revient sur la question pornographique ou sur la pornographie. La pornographie, c'est qu'un des usages de l'hétérosexualité, justement, de la sexualité à l'intérieur d'un cadre commercial ou même capitaliste, en fait. Mais il y a tout un champ d'exploration des pratiques chorégraphiques du corps qui ont été l'hétérosexualité. C'est aussi, en fait, une restriction gestuelle des chorégraphies corporelles. Et donc, peut-être, ouais, il y a une dimension d'expérimentation nécessaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais beaucoup des ateliers post-porn, en fait, par exemple, en fait, où c'était vraiment des explorations de la sexualité au-delà, en fait, des régimes normatif aussi bien hétérosexuel qu'homosexuel.
Il n'y a pas de raison que la norme connaisse ses frontières aussi de ce
genre. Ouais, non, parce que je vous dis ça parce que aussi l'homosexualité est aussi une convention politique qui a ses propres.
Et peut se vivre comme alternative, comme forcément critique, etc.
Absolument,
etc.
Absolument. Donc peut-être c'est la question en fait d'aller au-delà de l'homosexualité, l'hétérosexualité.
Merci beaucoup, Paul B. Preciado. Un appartement sur Uranus, c'est publié aux éditions Grasset. À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Valentin Rémy, qui mettent à penser et préparer cette émission tous les jours, quand vous voulez, sur franceculture.fr, la référence des archives, des musiques, des livres, et de quoi écouter cette émission, réécouter cette émission, et puis les autres en podcast.